Le journal de George Fox 1661-1666 Prison du château de Scarborough Page 2 En quittant Tenterden, nous allâmes à Newark, dans le Sussex, où nous rendîmes visite à quelques amis. De là, nous traversâmes la campagne, visitant des amis et tenant de grandes réunions. Tout se passa paisiblement et sans trouble, si ce n'est de la part de quelques Baptiste Crayler, jusqu'à ce que nous entrions dans le Hampshire. Là, après une bonne réunion à Southampton, nous allâmes à Pulney dans la paroisse de Ringwood, où devait se tenir le lendemain une réunion mensuelle. Beaucoup d'amis vinrent de Southampton, de Poole et d'autres lieux. Et comme le temps était très chaud, certains vinrent assez tôt le matin. Je pris un ami et marchai avec lui dans le verger, lui demandant comment se portaient parmi eux les affaires de la vérité, car beaucoup d'entre eux avaient été convaincus par moi avant que je ne sois prisonnier en Cornouailles. Pendant que nous conversions, un jeune homme vint nous dire que les bandes entraînées se levaient et qu'il avait entendu qu'elles devaient venir disperser la réunion. Il restait environ 3 heures avant l'heure de la réunion, et comme d'autres amis se promenaient dans le verger, l'ami susmentionné, avec qui je conversais auparavant, me demanda de marcher dans un champ de blé attenant, ce que nous fîmes. Au bout d'un moment, le jeune homme qui avait parlé des bandes entraînées nous quitta, et quand il se fut éloigné un peu, il s'arrêta et agita son chapeau. Je parlai à l'autre jeune homme qui était avec moi et lui demandai d'aller voir ce que signifiait ce signe. Il y alla, mais il ne revint pas, car les soldats étaient entrés dans le verger. Comme je continuais de marcher, je pouvais voir les soldats, et comme je l'appris ensuite, certains d'entre eux me virent, mais n'avaient pas l'intention d'intervenir. Ainsi les soldats arrivèrent bien avant l'heure de la réunion, et ils ne tardèrent pas à arrêter les amis qu'ils trouvèrent à la maison ou ceux qu'ils rencontrèrent dans le chemin. Ils les emmenèrent tous. Après leur départ, vers 11 heures, les amis commencèrent à arriver, nous eûmes une grande et glorieuse réunion. La semence éternelle de Dieu fut établie au-dessus de tout, et le peuple fut affermi dans la nouvelle alliance de vie, sur le fondement, Christ Jésus. Vers la fin de la réunion, un homme en habit d'officiant vint et regarda à l'intérieur pendant que je déclarais, puis, aussitôt, il repartit. Cet homme venait avec une mauvaise intention, car il alla à Ringwood et dit aux magistrats qu'ils avaient pris 2 ou 3 hommes à Pulney et qu'ils avaient laissé George Fox là, prêchant à 200 ou 300 personnes. En entendant cela, les magistrats renvoyèrent officiers et soldats à la réunion. Mais comme la réunion touchait à sa fin lorsque l'homme regarda, et qu'il avait environ 1,5 milles à parcourir pour porter son information et aller chercher les soldats, et que les soldats avaient autant de chemin à faire après avoir reçu leurs ordres, notre réunion fut terminée avant leur arrivée. Elle s'acheva vers 3 heures de l'après-midi, paisiblement et avec ordre. Après la réunion, je parlai aux amis de la maison où elle s'était tenue, la femme de la maison y gisait alors morte, puis quelques amis me conduisirent chez un autre ami à une petite distance, où après nous être rafraîchis, je partis à cheval, ayant environ 20 000 à parcourir cet après-midi-là jusqu'à la maison d'un homme nommé Fry, dans le Wiltshire, où une réunion devait se tenir le lendemain. Après notre départ, les officiers et les soldats arrivèrent dans une grande chaleur, et trouvant qu'ils avaient manqué leur proie, ils furent fort irrités. Les officiers en voulurent aux soldats de ne pas avoir saisi mon cheval à l'écurie la première fois qu'ils étaient venus. Mais le Seigneur, par sa bonne providence, me délivra et empêcha leur dessein malfaisant. Car les officiers étaient des hommes envieux et nourrissaient de mauvaises pensées contre les amis. Mais le Seigneur fit tomber ses jugements sur eux, au point que leurs voisins le remarquèrent. Car alors qu'ils étaient auparavant des hommes aisés, leurs biens se dissipèrent ensuite. Et John Lyne, le connétable, qui non seulement se montra très violent en ordonnant aux soldats de prendre les amis, mais conduisit aussi en prison ceux qui avaient été arrêtés. Et il prêta un faux serment contre eux aux assises, à cause duquel ils furent condamnés à une amende et maintenus prisonniers. John Lyne était un triste spectacle à voir, car sa chair pourrissait tandis qu'il vivait, et il mourut dans un état très misérable, souhaitant n'avoir jamais eu affaire aux Quakers, et confessant qu'il n'avait jamais prospéré depuis qu'il avait pris part à leur persécution, et qu'il pensait que la main du Seigneur était contre lui pour cela. Chez Fry, dans le Wiltshire, nous eûmes une réunion très bénie et paisible, bien que les officiers eussent projeté de la disperser et fussent en route pour le faire. Mais avant qu'ils n'arrivent à la réunion, on leur apporta la nouvelle qu'une maison venait d'être cambriolée par des voleurs et qu'on leur demandait de revenir en hâte pour les rechercher et les poursuivre, grâce à quoi notre réunion échappa à tout trouble, et nous fûmes préservés de leurs mains. Nous traversâmes le Wiltshire jusqu'au Dorsetshire et eûmes de grandes et bonnes réunions. La puissance éternelle du Seigneur était avec nous et nous porta au-dessus de tout. Par elle, nous fîmes retentir sa vérité salvatrice et la parole de vie, que beaucoup reçurent volontiers. Ainsi visitâmes-nous, les amis, jusqu'à ce que nous arrivions à Topsham, dans le Devonshire, voyageant quelques semaines à raison de 180 à 190 000 par semaine, et nous avions des réunions chaque jour. À Topsham, nous rencontrâmes Margaret Fell et deux de ses filles, Sarah et Mary, ainsi que Leonard Fell et Thomas Holthaus. De là, nous passâmes à Totnes, où nous rendîmes visite à quelques amis, puis à Kingsbridge et chez Henry Pollexfen, qui avait été un ancien juge de paix. Là, nous eûmes une grande réunion. Ce vieux juge nous accompagna à Plymouth, puis en Cornouailles, chez le juge Porté, et de là chez Thomas Mount, où nous eûmes une grande réunion. Après quoi nous allâmes chez Humphrey Lowe, où nous eûmes aussi une grande réunion, puis chez Love des Amblay, où nous eûmes une réunion générale pour tout le pays, et tout fut paisible. Peu auparavant, Joseph Hélène et G. Beulah étaient allés à Lou visiter Blanche Pope, une femme exaltée, sous prétexte de la convaincre et de la convertir, mais avant de la quitter, elle les avait si fort obscurcis par ses principes qu'ils semblaient être comme ses disciples, surtout Joseph Hélène, car elle leur avait demandé « Qui a fait le diable sinon Dieu ?» Cette question oiseuse les troubla tellement qu'ils ne purent lui répondre. Ils me posèrent ensuite la question. Je leur répondis non, car tout ce que Dieu a fait était bon et béni, ainsi il n'a pas fait le diable. On l'appelait serpent avant de l'appeler diable et adversaire, et c'est ensuite qu'on lui donna le titre de diable. Et plus tard on l'appela dragon, parce qu'il était un destructeur. Le diable ne demeura pas dans la vérité, en se détournant de la vérité, il devint diable. Ainsi les Juifs, lorsqu'ils sortirent de la vérité, furent dits être du diable, et furent appelés serpents. Il n'y a aucune promesse de Dieu au diable qu'il reviendra jamais dans la vérité, mais la promesse fut faite à l'homme et à la femme, que lui avait trompé. La promesse de Dieu est que la postérité de la femme brisera la tête du serpent, et qu'elle mettra en pièces son pouvoir et sa force. Quand ces choses furent exposées plus amplement à la satisfaction des amis, ces deux-là, qui avaient laissé s'élever l'esprit de cette femme exaltée, furent jugés par la vérité. Et l'un d'eux, Joseph Hélène, se détourna tout à fait de la vérité et fut désavoué par les amis. Mais George Beulah fut restauré, et devint ensuite utile à la vérité. Nous passâmes de chez Love des Amblay à chez Francis Hodge, près de Falmouth et Penrhyn, où nous eûmes une grande réunion. De là, nous allâmes cette nuit-là à Helston, où quelques amis vinrent nous visiter, et le lendemain nous passâmes chez Thomas Tidge, où nous eûmes une grande réunion, au cours de laquelle beaucoup furent convaincus. Je fus conduit à ouvrir l'état de l'église au temps primitif, l'état de l'église au désert, l'état de la fausse église qui s'était élevée depuis, et à montrer que maintenant l'évangile éternel était de nouveau prêché par-dessus la tête de la prostituée, de la bête, des faux prophètes, des antéchrists, qui s'étaient levés depuis les jours des apôtres, et que maintenant l'évangile éternel était reçu en train d'être reçu, ce qui mettait en lumière la vie et l'immortalité, afin qu'ils voient au-dessus du diable qui les avait obscurcis. Le peuple reçut volontiers l'évangile et la parole de vie, et nous eûmes une réunion glorieuse et bénie pour l'exaltation de la vérité éternelle du Seigneur et de son nom. Après qu'elle fut terminée, je sortis me promener, et en rentrant, j'entendis du bruit dans la cour. En m'approchant, je trouvai l'homme de la maison parlant aux mineurs d'Étain et à d'autres, et leur disant la vérité éternelle qui avait été déclarée là ce jour-là, et généralement, les gens la confessèrent. De là, nous passâmes vers Land's End, chez John Ellie, où nous eûmes une précieuse réunion. Il y avait là un pêcheur, Nicholas Jose, qui fut convaincu. Il prit la parole dans les réunions et déclara la vérité parmi le peuple, et la puissance du Seigneur était au-dessus de tout. Je me réjouis que le Seigneur ait dressé son étendard dans ces contrées obscures de la nation, où il y a depuis une belle réunion d'amis au cœur honnête, et beaucoup là sont venus s'asseoir sous l'enseignement de Christ, et le Seigneur aura un grand peuple dans ce pays. De là, nous retournâmes à Redruth, et le lendemain à Truro, où nous eûmes une réunion. Le matin suivant, quelques-uns des principaux hommes de la ville désirèrent me parler, parmi lesquels le colonel Rouse. J'y allai et j'eus avec eux beaucoup d'échanges au sujet des choses de Dieu. Dans leur raisonnement, ils disaient, « L'Évangile, ce sont les quatre livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean, et ils l'appelaient naturel. » Mais je leur dis que l'Évangile était la puissance de Dieu, qui avait été prêchée avant que Matthieu, Marc, Luc ou Jean fussent écrits, et qu'elle avait été prêchée à toute créature, dont une grande partie pourrait ne jamais voir ni entendre parler de ces quatre livres, de sorte que toute créature devait obéir à la puissance de Dieu, car Christ, l'homme spirituel, jugerait le monde selon l'Évangile, c'est-à-dire selon sa puissance invisible. En entendant cela, ils ne purent contester, car la vérité les domina. Je les orientai donc vers leur maître la grâce de Dieu, et leur en montrai la suffisance, qui leur enseignerait comment vivre et ce qu'il faut renier. Et si on lui obéissait, elle leur apporterait le salut. Je les recommandai donc à cette grâce et les quittai. Puis nous revînmes à travers la campagne, visitant les amis, et eûmes de nouveau des réunions chez Humphrey Lowe et chez Thomas Mount. Ensuite, chez George Hawkins à Stoke, nous eûmes une grande réunion, à laquelle des amis vinrent de Launceston et de plusieurs autres lieux. Ce fut une réunion, vivante et précieuse, où la présence et la puissance du Seigneur se manifestèrent richement parmi nous, et je laissai les amis là sous l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Les prêtres et les « professeurs » de toutes les sectes étaient fort opposés aux réunions silencieuses des amis, et parfois prêtres et professeurs venaient à nos réunions. Et quand ils voyaient 100 à 200 personnes attendre le Seigneur en silence, ils en étaient stupéfaits et malveillants. Certains disaient « Regardez comme ces gens restent assis à marmonner et à rester muets. Quelle édification peut-il y avoir ici sans parole ?» Ils disaient « Partons, pourquoi rester ici à regarder des gens assis de cette manière ?» Ils disaient n'avoir jamais rien vu de semblable de leur vie. Alors, si un ami avait été poussé par l'esprit à leur parler et à dire « Avez-vous dit n'avoir jamais rien vu de semblable de votre vie ? Regardez dans votre propre paroisse et allez y voir comment votre peuple reste assis à marmonner, à rester muet et à dormir sous vos prêtres toute sa vie, tandis que les prêtres maintiennent les gens sous leur enseignement, afin d'être toujours payés. Pourquoi ne nous assierions-nous pas sous l'enseignement de Christ Jésus notre Maître, qui a dit « Apprenez de moi », qui enseigne gratuitement, qui a donné sa vie pour nous, qui nous a rachetés par son sang, qui est notre berger, qui nous nourrit gratuitement, qui est notre prophète que Dieu a suscité et qui nous ouvre gratuitement, qui est notre conseiller, notre chef et le capitaine de notre salut qui nous conduit gratuitement, qui est notre prêtre élevé plus haut que les cieux, qui s'est offert lui-même pour nous, nous sanctifie et nous offre à Dieu, qui est la tête de l'Église. Maintenant, disons, pourquoi ne nous assierions-nous pas sous l'enseignement gratuit de Christ Jésus, pour qu'il nous nourrisse, nous surveille et nous conseille ? Car les auditeurs des prêtres doivent s'asseoir sous eux, pourtant ils disent n'avoir jamais entendu la voix de Dieu ou de Christ, et ne pas avoir la même puissance et le même esprit que les prophètes et les apôtres avaient. Dès lors, quelle édification peut-il y avoir parmi vous, qui n'êtes pas dans la même puissance et le même esprit que les apôtres ? Peut-il y avoir plus d'édification parmi vous que chez les Turcs, les Juifs et les païens, qui ne sont pas dans la même puissance et le même esprit que les apôtres ? Ainsi vous êtes hors de la puissance et de l'esprit des apôtres, vous ne savez rien d'autre que suivre vos propres esprits, comme les faux prophètes d'autrefois. Ceux qui sont en Christ Jésus sont de nouvelles créatures. En Christ, toute chair est silencieuse. Mais ceux qui ont la parole du Seigneur et de la part du Seigneur peuvent la dire librement, comme Dieu et Christ le leur commandent. Que ceux qui ont l'Évangile, la puissance de Dieu venue du ciel, et non de l'homme ni par l'homme, mais envoyée du ciel par le Saint-Esprit, la prêchent librement, comme ils l'ont reçue gratuitement. Car les Écritures n'ont pas été données pour que des hommes fassent commerce de leur lecture, les apprenant même en 3 ou 4 langues hébreu, grec, latin, etc. Les appelant l'original, l'orthodoxe et le divin, ce qui n'est que naturel. Les appeler l'original, c'est ignorer l'original qui commença à Babel. Le vrai original est la parole par laquelle toutes choses ont été faites et créées, qui était avant Babel au commencement. Cette parole vit, demeure et endure à jamais, après que Babel et Babylone, avec toutes leurs langues et leurs langages, ont disparu, cette parole est divine et fait des êtres divins. Celui qui a cette parole dans son cœur et dans sa bouche doit la prêcher librement. Ceux qui disent être rendus saints par la langue naturelle et les langues qu'ils s'attribuent ne sont que des hommes naturels faits par d'autres hommes naturels. Ces hommes naturels, prétendant être saints, appellent naturel et du diable, l'idole des Quakers et Antichrist la vie en Christ, la parole par laquelle toutes choses ont été faites et créées, qui est la vraie lumière sainte qui éclaire tout homme venant au monde. Ainsi le peuple peut voir quelle sainteté ces hommes naturels et ces langues produisent. En Cornouailles, on m'informa qu'il y avait un certain colonel Robinson, homme très méchant, qui, après le retour du roi, fut fait juge de paix et devint un cruel persécuteur des amis. Il en avait envoyé beaucoup en prison. Quand il apprit que les amis avaient quelques libertés, par la faveur du geôlier, d'aller parfois chez eux, parfois visiter leurs femmes et leurs enfants, il se plaignit fortement au juge des assises contre le geôlier. À cause de cela, le geôlier fut condamné à une amende de 100 marks, et les amis furent gardés très strictement pendant quelque temps. Après que le colonel Robinson fut rentré des assises, il envoya chercher un juge voisin pour lui demander d'aller avec lui à la chasse aux fanatiques astérisques. Ainsi, le jour où il avait l'intention d'aller à la chasse aux fanatiques et s'y était préparé, il envoya son homme avec ses chevaux et marcha lui-même à pied depuis sa maison jusqu'à une dépendance où l'on gardait ses vaches et sa laiterie, et où ses serviteurs trayaient alors. Lorsqu'il y arriva, il demanda son taureau. Les servantes dirent qu'elle l'avait enfermé dans le champ parce qu'il était indocile et gênait la traite. Alors il entra dans le champ auprès du taureau, et ayant auparavant l'habitude de jouer avec lui, il commença à ferrailler contre lui avec son bâton, comme il le faisait d'ordinaire. Mais le taureau renifla et recula un peu, puis se retourna de nouveau contre lui, fonça avec fureur, enfonça sa corne dans sa cuisse et le soulevant sur sa corne, le projeta par-dessus son dos, lui déchirant la cuisse jusqu'au ventre. Lorsqu'il retomba au sol, il le perça de ses cornes, les enfonça dans la terre dans sa rage et sa violence beugla, et lécha le sang de son maître. La servante, entendant son maître crier, courut dans le champ et saisit le taureau par les cornes pour l'écarter de son maître. Le taureau, sans lui faire de mal, la repoussa doucement de ses cornes, mais continua à le percer et à lécher son sang. Alors elle courut chercher des hommes qui travaillaient non loin de là pour venir secourir son maître, mais ils ne purent nullement faire reculer le taureau jusqu'à ce qu'ils amènent des chiens d'augue pour le lancer contre lui. Alors il s'enfuit dans une grande rage et fureur. À cette nouvelle, sa sœur vint et lui dit « Hélas, frère, quel lourd jugement vient de t'atteindre !» Il répondit « Ah, ma sœur, c'est en effet un lourd jugement. Je te prie que le taureau soit tué et que la viande soit donnée aux pauvres. » On le ramena chez lui, mais il mourut peu après. Le taureau était devenu si furieux qu'ils furent contraints de l'abattre au fusil, car aucun homme n'osait s'en approcher pour le tuer. Ainsi le Seigneur donne-t-il parfois des exemples de son juste jugement sur les persécuteurs de son peuple, afin que d'autres craignent et apprennent à s'en garder. Astérisque chasse aux fanatiques le divertissement consistant à troubler des réunions religieuses. Après que je me fis acquitter envers la Cornouaille, nous nous séparâmes de Thomas Lowe, qui nous avait accompagnés à cheval de réunion en réunion à travers ce pays, et nous avait fait repasser le Horse Bridge pour rentrer dans le Devonshire. Thomas Brigg, Robert Wood et moi arrivâmes à Tiverton. C'était le temps de la foire, et beaucoup d'amis s'y trouvaient. Nous eûmes une réunion parmi eux, et les magistrats se rassemblèrent dans la rue, mais la puissance du Seigneur les arrêta. Je les vis en face de la porte, mais ils n'eurent pas la force d'entrer pour se mêler de nous, bien qu'ils en eussent grande envie. Après la réunion, nous passâmes à Colompton et Wellington. Nous avions fixé une réunion à 5 000 de là, où nous en eûmes une grande, dans la maison d'un boucher, et ce fut une réunion bénie. Le peuple fut dirigé vers son maître, la grâce de Dieu, qui lui apporterait le salut, et beaucoup furent affermis sous son enseignement. La présence du Seigneur était parmi nous, et nous fûmes rafraîchis en lui, en qui nous travaillions et peignions, et la réunion fut paisible. Peu auparavant, il y avait eu de très grandes persécutions dans ce pays et dans cette ville, à tel point que certains amis mettaient en doute le caractère paisible de notre réunion. Mais la puissance du Seigneur enchaîna tout, et sa gloire resplendit sur tout. Les amis nous racontèrent comment on avait dispersé leurs réunions au moyen de mandats des juges, et comment, par ces mandats, on ordonnait aux officiers de « porter » les amis devant les juges. Les amis leur dirent alors de les « porter ». Les officiers leur dirent qu'ils devaient y aller. Mais ils répondirent que non, que ce n'était pas conforme au mandat qui exigeait qu'ils soient portés. Ainsi, ils furent contraints de louer des charrettes, des chariots et des chevaux, et de les soulever dans leurs chariots et leurs charrettes pour les porter devant un juge. Quand ils arrivaient chez un juge, ils se trouvaient parfois absents. Ou s'il était modéré, ils se dérobaient, et alors ils étaient obligés de les porter devant un autre, de sorte qu'ils passèrent de nombreux jours à charrier et transporter les amis de lieu en lieu. Et quand ensuite les officiers vinrent faire payer ces frais à la ville, les habitants refusèrent de les payer et les laissèrent à leur charge, ce qui brisa le coup de leur persécution pour un temps. Des choses semblables furent faites en plusieurs autres lieux, jusqu'à ce que les officiers se soient couverts de honte et se soient fatigués, et qu'ils soient prêts à cesser. En un endroit, ils avertirent les amis de venir à l'église paroissiale. Les amis se réunirent pour en délibérer, et se sentant libres d'y aller, ils s'y rendirent ensemble. Ainsi, lorsqu'ils arrivèrent, ils s'assirent ensemble pour attendre le Seigneur dans sa puissance et dans son esprit, portant leur attention sur le Seigneur Jésus-Christ, leur maître et sauveur. Mais ils ne prêtèrent pas attention aux prêtres. Quand les officiers virent cela, ils vinrent pour les faire sortir de l'église à nouveau, mais les amis leur dirent qu'il n'était pas encore temps de disperser leur réunion. Un peu plus tard, quand le prêtre eut fini son office, ils s'approchèrent encore des amis et leur demandèrent de rentrer dîner. Mais les amis leur dirent qu'ils ne choisissaient pas d'aller dîner, parce qu'ils se nourrissaient du pain de vie. Ainsi restèrent-ils assis, attendant le Seigneur et jouissant de sa puissance et de sa présence, jusqu'à ce qu'ils se sentent libres en eux-mêmes de partir. Ainsi le peuple du prêtre fut offensé, parce qu'ils ne pouvaient pas les faire venir à l'église, et quand ils y étaient, ils furent offensés parce qu'ils ne pouvaient pas les en faire sortir. De la réunion, près de Colompton, nous allâmes à Taunton, où nous eûmes une grande réunion. Le lendemain, nous vîmes à une réunion générale dans le Somersetshire, très grande, et la parole éternelle de vie et de vérité du Seigneur y fut largement déclarée. Le peuple fut rafraîchi et affermi sur Christ, son rocher et fondement, et amené à s'asseoir sous son enseignement, et la réunion fut paisible. Vers 2 heures du matin cette nuit-là, une troupe d'hommes frappa à la porte et dit d'ouvrir, ou qu'il la forcerait, car il voulait un homme, et il venait fouiller la maison pour le trouver. J'entendis le bruit, me lever, et à la fenêtre je vis un homme à la porte, l'épée au côté. Lorsqu'on le laissa entrer, il vint dans la chambre où j'étais, me regarda et dit « Vous n'êtes pas l'homme que je cherchais », puis il s'en alla. De là, nous allâmes à Street, puis chez William Beaton, à Pudimore, où nous eûmes une très grande réunion générale. La vérité éternelle du Seigneur y fut déclarée, le peuple rafraîchi, et tout fut paisible. De là, nous allâmes chez John Dandy, où nous eûmes une autre grande réunion très précieuse. Puis nous passâmes à Bristol, où nous eûmes bon service pour le Seigneur, et tout fut paisible. Ici, nous rencontrâmes de nouveau Margaret Fell et ses filles. Après quelque temps, nous allâmes à Slattenford dans le Wiltshire, où se tint une très grande réunion dans une vaste grange. Nous y eûmes bon service, car la vérité, telle qu'elle est en Jésus, fut publiée parmi eux, et beaucoup furent rassemblés par elle dans le nom du Seigneur. Après cela, je passai dans le Gloucestershire et le Hertfordshire, ayant de grandes réunions dans chacun. À Hertford, j'eus une réunion à l'auberge, et après mon départ, les magistrats, l'ayant appris, vinrent fouiller l'auberge pour me chercher et furent contrariés de m'avoir manqué. Mais le Seigneur l'ordonna ainsi, que j'échappai à leurs mains, et les amis furent établis sur Christ, leur fondement, le rocher des siècles. Puis j'allai dans le Radnorshire, au pays de Galles, où j'eus plusieurs réunions précieuses. Le nom et l'étendard du Seigneur y furent dressés. Beaucoup y furent rassemblés et affermis sous l'enseignement de Christ Jésus, leur Sauveur, qui les avait rachetés. Après m'être acquitté envers le pays de Galles, je vins dans une ville de marché entre l'Angleterre et le pays de Galles, où se tenait ce jour-là une grande foire. Et comme plusieurs amis étaient à la foire, nous allâmes à une auberge où ils vinrent à nous. Après une belle occasion avec les amis, nous nous séparâmes et poursuivîmes notre chemin. Il semble que les officiers de la ville remarquèrent notre présence et le fait que les amis se rassemblaient vers nous. Bien que ce fût le temps de la foire, ils commencèrent à se réunir pour délibérer sur la manière de nous prendre au piège. Mais avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit, nous étions partis et leur échappâmes ainsi. De là, nous entrâmes dans le Shropshire, où nous eûmes une grande et précieuse réunion. Après beaucoup de réunions en ces régions, nous arrivâmes dans le Warwickshire, y visitâmes les amis, puis dans le Derbyshire et le Staffordshire, visitant les réunions au fur et à mesure. À Whitehall, nous eûmes une grande réunion bénie, et elle fut paisible, après quoi nous prîmes cheval et chevauchâmes environ 20 000 cette nuit-là jusqu'à chez un capitaine Lingard. Nous apprîmes ensuite que, quand nous fûmes partis, les officiers vinrent pour nous saisir et qu'ils furent très contrariés de nous avoir manqué. Mais le Seigneur les déjoua et les amis se réjouirent dans le Seigneur que nous leur ayons échappé. Chez le capitaine Lingard, nous eûmes une réunion bénie, la présence du Seigneur étant merveilleusement parmi nous. Après quoi nous traversâmes la région du Pic dans le Derbyshire et allâmes à Cinderhill Green, où nous eûmes une grande réunion. Ici, Margaret Fell et ses filles me rencontrèrent de nouveau. De là, nous passâmes près de Balby, où nous eûmes une autre réunion. Margaret nous quitta et alla dans le Bishopuck. Ici, John Whitehead et plusieurs amis vinrent à moi. Puis je passai à travers le pays, visitant les amis jusqu'à ce que j'arrive à l'extrémité la plus éloignée de Holderness, et par Scarborough, Whitby et Malton, à York, ayant beaucoup de réunions en chemin, et la puissance éternelle du Seigneur était au-dessus de tout. Nous allâmes de York à Burbridge, où j'eus une glorieuse réunion. De là, nous passâmes dans le Bishopric chez un certain Richmond, où il y eut une réunion générale, et la puissance du Seigneur était au-dessus de tout, bien que les gens fussent extrêmement grossiers en ce temps-là. Après la réunion, nous allâmes chez Henry Drapé, où nous passâmes la nuit. Le lendemain matin, alors que je partais, un ami vint me dire, « Si les prêtres et les juges, car beaucoup de prêtres furent faits juges dans ce pays à ce moment-là, pouvaient me trouver, ils me détruiraient. Étant sorti du Bishopric, je passai Stainmore et rentrai dans le Yorkshire, puis à Sedbergh, où après avoir visité les amis, j'allai dans le Westmoreland, visitant aussi les amis là-bas. De là, je passai dans le Lancashire et arrivai à Swarthmore, où je ne restai que peu avant de traverser les Sandes vers Arnseed, où j'eus une réunion générale. Après sa fin, des hommes vinrent dans l'espoir de l'avoir dispersé, mais avant d'y parvenir, ils se rendirent compte que la réunion était terminée, et ils rebroussèrent chemin. Je me rendis chez Robert Withers, puis à Underbar, où j'eus une glorieuse réunion. Et la puissance du Seigneur fut établie au-dessus de tout. De là, je passai à Greyrigg, visiter les amis, puis chez Anne Audelan, qui voulait que je reste pour leur réunion du lendemain, mais je ressentis un arrêt dans mon esprit. Il m'était imposé d'aller chez John Blakeling, à Sedbergh, pour être à la réunion là-bas. Cette réunion est grande, et un peuple précieux s'y trouve. Nous eûmes une très bonne réunion le lendemain, mais les connétables allèrent à la réunion d'Anne Audelan pour me chercher. Ainsi, par la bonne main et la providence disposante du Seigneur, j'échappai à leur piège. Je partis de chez John Blaylding avec Leonard Fell pour Strickland Red, où, le premier jour, nous eûmes une réunion très précieuse sur la lande. Cette nuit-là, nous demeurâmes parmi nos amis, et le lendemain nous passâmes dans le Northumberland. Après que les juges eurent entendu parler de cette réunion, ils me cherchèrent, mais par la bonne main du Seigneur, je leur échappai, bien qu'il y eût des juges très méchants. Nous allâmes dans le Northumberland, chez Hugh Hutchinson, un ami du ministère, et nous y visitâmes les amis des environs, puis à Derwater, où nous eûmes une réunion très glorieuse. Une vieille femme vint à nous là et me dit que son mari se souvenait affectueusement de moi. Elle dit que je pouvais me le rappeler au moyen du si que j'employais pour l'appeler, le grand vieil homme blanc. Elle dit qu'il avait 122 ans et qu'il serait venu à la réunion, mais que ses chevaux étaient tous occupés pour quelque urgence. J'entendis dire qu'il vécut encore quelques années après. Quand j'eus visité les amis dans ces régions et qu'ils furent affermis sur Christ, leur fondement, leur rocher et leur maître, je traversai le Northumberland et arrivai chez le vieux Thomas Beauly dans le Cumberland. Des amis vinrent et demandèrent « Suis-je venu là pour aller en prison ?» Car il y avait une grande persécution dans ce pays à ce moment-là. Pourtant j'eus une réunion générale chez Thomas Beauly, qui fut grande et précieuse, et la puissance du Seigneur était au-dessus de tout. À ce moment-là, le lieutenant-gouverneur de Carlisle s'appelait Musgrave, et comme je traversais ce pays, je vins à la maison d'un homme qui avait été convaincu, nommé Fletcher, et il me dit « Si Musgrave savait que j'étais ici, il ne manquerait pas de m'envoyer en prison, tant c'est un homme sévère. » Mais je ne restai pas, car je n'avais fait que passer en chemin pour voir cet homme. Je continuai donc jusqu'à chez William Pearson, près de Wigton, où la réunion fut très grande et précieuse. Quelques amis étaient alors prisonniers à Carlisle, que je visitai par une lettre que Leonard Fell porta. De chez William Pearson, je visitai les amis jusqu'à ce que j'arrive à Partsey Crag, où nous eûmes une réunion générale, grande, tranquille et paisible, et la glorieuse et puissante présence du Dieu éternel était avec nous. À cette époque, les magistrats étaient si désireux de susciter la persécution dans ces régions que certains offraient 5 shillings, d'autres 1 noble par jour, à quiconque pourrait appréhender ceux qui prenaient la parole parmi les Quakers. Mais comme c'était le temps d'écarter session dans ce comté, les hommes qu'on avait engagés pour nous arrêter étaient allés aux sessions pour toucher leur salaire, de sorte que toutes nos réunions furent alors paisibles. De Partsey Crag, nous allâmes dans le Westmoreland, nous arrêtant en chemin chez Hugh Tickell, près de Keswick, puis chez Thomas Lees, où des amis vinrent nous visiter, et nous eûmes une belle occasion d'être rafraîchis ensemble. Cette nuit-là, nous allâmes chez Francis Banson dans le Westmoreland, près de chez le juge Fleming. Ce juge était alors dans une grande fureur contre les amis, et contre moi en particulier, à tel point que, lors des sessions publiques à Candale, peu auparavant, il avait offert 5 livres à tout homme qui me prendrait, comme Francis Banson me le dit. Et il semble que, tandis que j'allais chez cet ami, je rencontrai un homme revenant des sessions, à qui ces 5 livres avaient été offertes pour me prendre, et qui me connaissait, car comme je passais près de lui, il dit à son compagnon, « C'est George Fox, pourtant il n'eut pas la force de me toucher, car la puissance du Seigneur me préserva au-dessus de tous. » Comme les juges étaient si désireux de m'avoir, et bien que je fus si souvent près d'eux, ils ne cessaient de me manquer, et cela les tourmentait d'autant plus. De là, je me rendis chez James Taylor, à Cartmel, dans le Lancashire, où je restai le premier jour et eus une réunion précieuse, après quoi je traversai les Sandes pour aller à Swarthmore. Là, on me dit que le colonel Kirby avait envoyé son lieutenant, qui avait fouillé des malles et des coffres pour me chercher. Cette nuit-là, comme j'étais au lit, le Seigneur me poussa à aller le lendemain à Kirby Roll, la maison du colonel Kirby, à environ 5 milles pour lui parler. Quand j'y arrivai, je trouvai les Fleming et plusieurs autres de la soi-disant gentry du pays, qui étaient là pour accompagner le départ du colonel Kirby, qui se préparait à monter à Londres au Parlement. On me fit entrer dans le salon parmi eux, mais le colonel Kirby n'y était pas, étant sorti un peu. Ils me dirent peu de choses et moi peu à eux. Mais au bout d'un moment, le colonel Kirby entra, et je lui dis alors que, comprenant qu'il souhaitait me voir, j'étais venu lui rendre visite pour savoir ce qu'il avait à me dire, et s'il avait quelque chose contre moi. Devant toute l'assemblée, il dit que, puisqu'il était un gentleman, il n'avait rien contre moi, mais, dit-il, Mistress Fell ne doit pas tenir de grandes réunions chez elle, car elles se tiennent contrairement à l'acte. Je lui répondis que cet acte n'était pas destiné à nous, mais à ceux qui se réunissaient pour comploter et machiner, et soulever des insurrections contre le roi, tandis que nous n'étions pas un tel peuple, car il savait que ceux qui se réunissaient chez Margaret Fell étaient ses voisins, et des gens paisibles. Après bien des paroles, il me serra la main et dit de nouveau qu'il n'avait rien contre moi, et d'autres dirent que j'étais un homme de mérite. Ainsi nous nous séparâmes, et je retournai à Swarthmore. Peu après, lorsque le colonel Kirby fut parti pour Londres, il y eut une réunion privée des juges et des deputy lieutenants à Roll Coroll, où vivait le juge Preston, où ils délivrèrent un mandat pour m'arrêter. J'appris la veille au soir la tenue de leur réunion et l'existence du mandat, et j'aurais pu me soustraire à leur portée si je l'avais voulu, car je n'avais fixé aucune réunion à ce moment-là, je m'étais acquitté envers le Nord, et la puissance du Seigneur était au-dessus de tout. Mais je considérais, comme il courait une rumeur de complot dans le Nord, que si je partais, ils pourraient s'en prendre aux amis, mais si je me livrais pour être pris, cela pourrait les en empêcher, et les amis échapperaient. Ainsi je me livrais pour être pris et me préparer à leur venue. Le lendemain, un officier vint, l'épée et les pistolets pour m'emmener. Je lui dis, je connaissais d'avance sa mission et je m'étais livré pour être pris, car si j'avais voulu échapper à leur emprisonnement, j'aurais pu être à 40 milles d'ici avant son arrivée. Mais puisque je suis un homme innocent, peu importe ce qu'ils me feront. Il me demanda comment j'en avais eu vent, puisque l'ordre avait été pris en privé dans un salon. Je dis que cela n'importait pas, qu'il suffisait que je l'ai appris. Je lui demandai de me montrer son ordre. Alors il posa la main sur son épée et dit que je devais aller avec lui devant les lieutenants pour répondre aux questions qu'il voudrait me poser. Je lui dis qu'il était seulement civil et raisonnable de me laisser voir son ordre, mais il ne voulut pas. Alors je dis, je suis prêt. Je partis donc avec lui et Margaret Fell nous accompagna jusqu'à Rollcoroll. Quand nous y arrivâmes, il y avait un juge Rawlinson et un certain Sir George Middleton et beaucoup d'autres que je ne connaissais pas, en plus du vieux juge Preston qui habitait là. Ils amenèrent Thomas Atkinson, un ami de Cottenell, comme témoin contre moi, à cause de quelques paroles qu'il avait dites à un certain Knip qui les avait rapportées. Ces paroles étaient que j'avais écrit contre les comploteurs et que je les avais renversées. Ils ne surent pas trop quoi en faire, car je leur dis que j'avais entendu parler d'un complot et que j'avais écrit contre lui. Alors le vieux Preston me demanda si j'avais pris part à cet écrit. Je lui demandai ce qu'il voulait dire, il dit, dans le Battle Dawn. Je répondis, oui, puis il me demanda si je comprenais les langues. Je dis, suffisamment pour moi-même, et que je ne connaissais aucune loi qui fût transgressée par cela. Je leur dis aussi que, comprendre ces langues extérieures n'était d'aucune importance pour le salut, car les nombreuses langues commencèrent à la confusion de Babel, et si j'en comprenais quelque chose, je les jugeais et les renversais de nouveau pour toute question de salut qu'on y mettrait. Là-dessus il se détourna et dit, « George Fox renverse toutes les langues, allons, dit-il, nous allons vous examiner sur des matières plus élevées. » Alors George Middleton dit, « Vous niez Dieu, l'Église et la foi. » Je répondis, « Non, je reconnais Dieu, la véritable Église et la véritable foi. Mais quelle Église reconnaissez-vous » dis-je, car je compris qu'il était papiste. Alors il se retourna de nouveau et dit, « Vous êtes un rebelle et un traître. » Je lui demandai à qui il parlait ou qui il appelait rebelle. Il était si plein d'envie que, pendant un moment, il ne put parler, mais enfin il dit qu'il le disait de moi. Alors je frappai la table de la main et lui dis que j'avais souffert plus de 20 hommes tels que lui, ou que n'importe lequel de ceux qui étaient là, car j'avais été jeté dans la prison de Danby pendant 6 mois d'affilée, et j'avais beaucoup souffert parce que je ne voulais pas prendre les armes contre ce roi avant la bataille de Woust. J'avais été envoyé comme prisonnier hors de mon propre pays, par le colonel Acker, à Oliver Cromwell, comme un comploteur pour faire revenir le roi Charles, en l'année 1654, et je n'avais que de l'amour et de la bonne volonté pour le roi, et je désirais le bien éternel et la prospérité de lui et de tous ses sujets. « Avez-vous jamais entendu pareille chose ?» dit Middleton. « Non, répondis-je, vous pourrez l'entendre encore si vous le voulez, car vous parlez du roi, vous autres, mais où étiez-vous au temps d'Olivet, et que fîtes-vous alors pour lui ? Mais moi, j'ai plus d'amour pour le bien éternel et la prospérité du roi que vous tous. » Puis ils me demandèrent si j'avais entendu parler du complot. Je dis, « Oui, j'en avais entendu parler. » Ils me demandèrent, « Comment en aviez-vous entendu parler, et qui connaissiez-vous dans ce complot ?» Je leur dis que j'en avais entendu parler par le grand shérif du Yorkshire, qui avait dit au D.R. Hodson, « Il y a un complot dans le Nord, c'est ainsi que je l'avais appris, mais je n'avais jamais entendu parler d'une telle chose dans le Sud, jusqu'à ce que je vienne dans le Nord. » Et quant à connaître quelqu'un dans ce complot, j'y étais comme un enfant, car je n'en connaissais aucun. Alors ils dirent, « Pourquoi écririez-vous contre cela, si vous n'aviez pas connu certains de ceux qui y étaient ?» Je dis, « Ma raison était que vous êtes si prompt à mettre ensemble l'innocent et le coupable, c'est pourquoi j'ai écrit contre cela afin de dégager la vérité de telles choses et d'empêcher tous les esprits téméraires et insensés de se jeter dans de telles affaires. J'en ai envoyé des copies au Westmoreland, au Cumberland, à l'évêché, au Yorkshire et à vous ici. J'en ai envoyé une autre copie au roi et à son conseil, et il est probable qu'à présent cela soit déjà imprimé. » L'un d'eux dit, « Oh, cet homme a un grand pouvoir. » Je dis, « Oui, j'avais le pouvoir d'écrire contre les fauteurs de complot. » Alors l'un d'eux dit, « Vous êtes contre les lois du pays. » Je répondis, « Non, car moi et mes amis dirigeons tous les gens vers l'Esprit de Dieu en eux, afin de faire mourir les œuvres de la chair. Cela les conduit à bien faire, et les éloigne de ce contre quoi l'épée des magistrats est tirée, ce qui soulage les magistrats, qui sont chargés de punir les malfaiteurs. Ainsi, les gens étant tournés vers l'Esprit de Dieu, qui les amène à mortifier les œuvres de la chair, cela les met hors de portée de l'épée des magistrats. Cela doit faire un avec la magistrature et un avec la loi, qui a été ajoutée à cause des transgressions et qui est pour la louange de ceux qui font le bien. En cela nous établissons la loi, nous soulageons les magistrats, et nous ne sommes pas contre, mais nous soutenons tout bon gouvernement. Alors George Middleton s'écria, « Apportez le livre, et faites-lui prêter les serments d'allégeance et de suprématie. » Comme il était papiste et donc capable de jurer, je lui demandai s'il avait prêté le serment de suprématie. Mais quant à nous, nous ne pouvions pas jurer du tout, parce que le Christ et son apôtre l'avaient interdit. Certains d'entre eux n'auraient pas voulu qu'on m'imposât le serment, mais qu'on me remît en liberté. Les autres ne voulurent pas y consentir, car c'était leur dernier piège, et ils n'avaient pas d'autre moyen de me faire mettre en prison, puisque toutes les autres choses avaient été éclaircies devant eux. Cela ressemblait au sacrement de l'autel des papistes, par lequel ils avaient pris au piège les martyrs. Ils cherchèrent donc à m'obliger à prêter serment, ce que je ne pouvais pas faire, sur quoi ils furent sur le point de rédiger mon ordre d'écrou pour m'envoyer à la prison de Lancaster, mais y réfléchissant, ils se contentèrent de m'engager à comparaître aux assises, et pour cette fois me renvoyèrent. Je retournai avec Margaret Fell à Swarthmore, et peu après le colonel West vint me voir, il était alors juge de paix. Il nous dit, « J'ai dit à certains des autres juges de paix que je viendrai voir Margaret Fell et vous, mais il se peut, dit-il, que certains d'entre vous s'en offensent. » Je lui demandai ce qu'il pensait qu'il ferait de moi aux assises. Il dit qu'il me présenterait de nouveau le serment. Pendant que j'étais à Swarthmore, William Kirby entra dans la réunion de Swarthmore et amena les constables avec lui. J'étais assis avec les amis dans la réunion, et il me dit, « Eh bien, M. Fox, vous avez ici une belle compagnie. » Oui, dis-je, nous nous réunissons pour attendre le Seigneur. Alors il se mit à prendre les noms des amis, et ceux qui ne lui disaient pas aussitôt leur nom, il les remit entre les mains des constables, et en envoya quelques-uns en prison. Les constables ne voulaient pas les emmener sans mandat, et alors il menaça de les arrêter, mais le constable lui dit qu'il pouvait les garder en sa présence, mais qu'après son départ il ne pouvait pas les garder sans mandat. Les assises approchant, je me rendis à Lancaster et comparus conformément à mon engagement. Sur le banc siégeait le juge Fleming, qui avait promis 5 livres au Westmoreland à tout homme qui m'appréhendrait, car il était juge tant au Westmoreland qu'au Lancashire. Il y avait aussi le juge Spencer, le colonel West, et le vieux juge Rawlinson, l'avocat, qui donna l'instruction au jury et se montra très dur contre la vérité et contre les amis, mais la puissance du Seigneur les arrêta. L'audience était importante, avec une grande foule, et le passage m'ayant été fait, j'avançai jusqu'à la barre et restai debout, le chapeau sur la tête, là, ils me regardèrent fixement et moi les regardai aussi un assez bon moment. Puis on fit proclamation que tous gardent le silence sous peine d'emprisonnement, et tout étant tranquille, je dis 2 fois, « Que la paix soit parmi vous ». Le président demanda si je savais où je me trouvais. Je dis, « Oui, je le sais, mais peut-être, dis-je, mon chapeau vous offense. Ce n'est pas l'honneur que je rends au magistrat, car le véritable honneur vient d'en haut. » Et je dis, « Je l'ai reçu, et j'espère que ce n'est pas le chapeau que vous regardez comme étant l'honneur. » Le président dit qu'ils attendaient aussi le chapeau et demanda comment je témoignais mon respect au magistrat si je ne retirais pas mon chapeau. Je répondis, « En venant lorsqu'ils m'ont appelé. » Alors ils demandèrent à quelqu'un de m'enlever mon chapeau. Après quoi, il se passa quelque temps avant qu'ils ne me parlent, et je sentis la puissance du Seigneur s'élever. Après une pause, le vieux juge Rawlinson, le président, me demanda si j'avais eu connaissance du complot. Je lui dis, j'en ai entendu parler dans le Yorkshire par un ami, qui l'avait appris du grand shérif. Ils me demandèrent si je l'avais déclaré au magistrat. Je dis, j'ai envoyé au dehors des écrits contre les complots et les fauteurs de complots, et aussi à vous, dès que je suis entré dans le pays, afin d'ôter de vos esprits toute jalousie à mon égard et à l'égard de mes amis, car c'est notre principe de déclarer contre de telles choses. Ils me demandèrent ensuite si je ne connaissais pas une loi contre les réunions. Je dis, je savais qu'il y avait une loi qui interdit les gens qui se réunissent pour effrayer les sujets du roi, qui sont ennemis du roi et professent des principes dangereux, mais j'espérais qu'ils ne nous regardaient pas comme de tels hommes, car nos réunions n'étaient pas faites pour effrayer les sujets du roi, et nous n'étions ennemis ni de lui ni d'aucun homme. Alors ils me présentèrent les serments d'allégeance et de suprématie. Je leur dis, je ne pouvais prêter aucun serment, parce que le Christ et son apôtre l'avaient interdit, et ils avaient eu suffisamment l'expérience des jureurs, qui juraient d'abord d'une façon puis d'une autre, mais moi, je n'avais jamais prêté serment de toute ma vie. Rawlinson me demanda si je tenais qu'il était illégal de jurer. Cette question, il la posait à dessein pour me prendre au piège, car selon une loi qui avait été faite, toute personne était passible de bannissement ou d'une lourde amende si elle disait qu'il était illégal de jurer. Mais moi, voyant le piège, je l'évitai et lui dis que, du temps de la loi parmi les Juifs avant la venue du Christ, la loi leur commandait de jurer. Mais le Christ, qui accomplit la loi dans le temps de l'Évangile, commande de ne pas jurer du tout, et l'apôtre Jacques interdit le serment, même à ceux qui étaient Juifs et qui avaient la loi de Dieu. Après beaucoup d'échanges, ils firent appeler le geôlier et me firent mettre en prison. J'avais sur moi le papier que j'avais écrit comme témoignage contre les complots, et je désirais qu'ils le lisent ou qu'ils permettent qu'il soit lu en audience publique, mais ils ne le voulurent pas. Ainsi, étant emprisonné pour refus de jurer, je leur demandai, ainsi qu'à tout le peuple, de prendre note que je souffrais pour la doctrine du Christ et pour mon obéissance à son commandement. Plus tard, j'appris que les juges de paix avaient dit qu'ils avaient des instructions secrètes du colonel Kirby pour me poursuivre, malgré sa conduite correcte et sa bienveillance apparente envers moi auparavant, quand il avait déclaré devant beaucoup d'entre eux qu'il n'avait rien contre moi. Plusieurs autres amis furent mis en prison, les uns pour s'être réunis afin d'adorer Dieu, les autres pour ne pas jurer, de sorte que la prison était très pleine. Beaucoup étaient de pauvres hommes, n'ayant aucun moyen de soutenir leur famille si ce n'est par leur travail, dont ils étaient maintenant privés. Plusieurs de leurs femmes allèrent trouver les juges de paix qui avaient emprisonné leur mari, et leur dire que, s'ils gardaient leur mari en prison pour rien d'autre que la vérité du Christ et par scrupule de conscience, elles leur amèneraient leurs enfants pour qu'ils les entretiennent. Une grande puissance du Seigneur s'éleva dans les amis et leur donna une grande hardiesse, de sorte qu'ils parlèrent beaucoup aux juges de paix. Les amis qui étaient prisonniers écrivirent aussi aux juges de paix, mettant sur eux le poids de leurs souffrances et leur montrant à la fois leur injustice et leur manque de compassion envers leurs pauvres voisins. Ils les savaient honnêtes, consciencieux et paisibles, et qu'en délicatesse de conscience ils ne pouvaient prêter aucun serment. Pourtant ils les envoyaient en prison pour avoir refusé de prêter le serment d'allégeance. Plusieurs de ceux qui étaient emprisonnés pour cette raison étaient connus comme des hommes qui avaient servi le roi dans ses guerres, avaient risqué leur vie sur le champ de bataille pour sa cause, avaient enduré de grandes privations avec la perte de beaucoup de sang pour lui, et lui étaient demeurés fidèles du premier au dernier, sans jamais recevoir aucun salaire pour leur service, et être ainsi récompensés pour tous leurs services fidèles et leurs souffrances par ceux qui prétendaient être les amis du roi, était une conduite dure, cruelle et ingrate. Finalement, les juges de paix, continuellement assaillis de plaintes au sujet des griefs, relâchèrent certains des amis, mais en gardèrent encore beaucoup en prison. Il y avait 4 amis en prison pour n'avoir pas payé la dîme, envoyés en prison à la suite d'un procès intenté par la comtesse de Derby, et ils y étaient depuis près de 2 ans et demi. L'un d'eux était Oliver Atherton, qui avait une constitution fragile à cause d'un long et rude emprisonnement dans un lieu froid, humide et malsain. Son corps s'était affaibli à tel point qu'il n'y avait apparemment aucun espoir qu'il vive, à moins d'être relâché. C'est pourquoi une lettre fut écrite en sa faveur à la comtesse et envoyée par son fils Godfrey Atherton, où il lui exposait les raisons pour lesquelles lui et les autres ne pouvaient pas payer la dîme, parce que s'il la payait, il renierait le Christ venu en chair, qui par sa venue avait mis fin à la dîme, ainsi qu'au sacerdoce auquel elle avait été donnée, et au commandement par lequel elle était payée sous la loi. Il lui parla aussi de son état de faiblesse et de la probabilité apparente de sa mort, si elle persistait à le retenir là, espérant qu'elle pourrait être touchée de pitié et de compassion. Il l'avertit aussi de ne pas attirer sur elle la culpabilité du sang innocent. Mais quand son fils se rendit auprès d'elle avec la lettre de son père, l'un de ses serviteurs l'injuria, lui arracha son bonnet et le jeta, et le chassa de la porte. Néanmoins, la lettre fut remise en main propre à la comtesse, mais elle se ferma à toute pitié et à toute tendresse, et le garda en prison jusqu'à sa mort. Lorsque son fils revint auprès de son père en prison et lui dit, alors qu'il était couché sur son lit de mort, que la comtesse lui refusait la liberté, il dit seulement, « Elle a été la cause de l'effusion de beaucoup de sang, mais ce sera le sang le plus lourd qu'elle ait jamais versé, et peu après il mourut. » Les amis, ayant reçu son corps pour l'enterrer, le portèrent de la prison à Holmskirk, la paroisse où il avait vécu. Ils placardèrent des papiers sur les croix du marché à un lieu d'avis public à Garstang, Preston et dans d'autres villes par lesquelles ils passèrent, avec cette inscription, « Voici Oliver Atherton, de la paroisse d'Holmskirk, persécuté jusqu'à la mort par la comtesse de Derby par scrupule de conscience envers Dieu et le Christ, parce qu'il ne pouvait pas lui donner la dîme. » Ces papiers expliquaient les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas payer la dîme, la durée de son emprisonnement, les privations qu'il avait subies, la dureté de cœur qu'elle avait eue envers lui et les circonstances de sa mort. Après sa mort, Richard Cuban, un autre de ses prisonniers pour la dîme, lui écrivit une longue lettre, en son nom et au nom de ses compagnons de captivité, exposant devant elle leur innocence. Ce n'était pas par entêtement, obstination ou cupidité qu'il refusait de lui payer la dîme, mais uniquement par scrupule de conscience envers Dieu et le Christ, lui faisant savoir que, même si elle devait être autorisée à les garder là jusqu'à ce qu'ils meurent tous, comme elle l'avait fait pour leur compagnon de souffrance, Oliver Atherton, il ne pourrait toujours pas céder à lui payer. Et il lui demanda donc d'examiner leur cas dans un esprit chrétien, et de ne pas faire retomber leur sang sur elle aussi. Pourtant, elle ne voulut montrer aucune pitié ni compassion envers eux, qui avaient déjà souffert sous sa main un dur emprisonnement d'environ 2 ans et demi. Au lieu de cela, elle envoya à la ville de Garstang et menaça de se plaindre au roi et au conseil, et de leur causer des ennuis, pour avoir permis que le papier concernant la mort d'Olivier Atherton fût affiché sur la croix du marché de la ville. La fureur qu'elle manifesta fit que les gens y prêtèrent encore davantage attention, et certains dirent que les Quakers lui avaient donné un os à ronger. Mais elle, qui n'avait eu aucun égard pour la vie d'un innocent souffrant pour le Christ, ne vécut pas longtemps après. 3 semaines, jour pour jour, après que le corps d'Olivier Atherton eut été porté à travers Ormskirk pour être enterré, elle mourut, et son corps fut porté à travers la même ville jusqu'à son lieu de sépulture. Ainsi le Seigneur poursuivit le persécuteur au cœur dur. Retour suivant.